Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h30.
Bretagne 5. L'invité du 7-9.
Et ce matin, nous recevons le président du conseil départemental des Côtes d'Armor, Christian Couaille, qui est venu jusqu'à nous au studio de Bretagne 5, au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez à peine fait votre rentrée. Hein, c'est tout récent.
C'est tout récent. C'était lundi dernier, la rentrée officielle, après la séance d'installation qui s'est déroulée le 1er juillet.
Voilà. Alors,
donc je suis encore dans le cadre des 100 jours de grâce.
Voilà, le fameux état de grâce. Alors Christian Couaille, vous êtes nouveau président du département. Vous avez été élu en juin dernier des élections départementales. La gauche est revenue au pouvoir dans les Côtes d'Armor. Vous la représentez. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses au niveau du département, au niveau de la gestion du département?
Eh bien écoutez, d'abord dire que si la gauche a gagné, c'est parce qu'elle était unie. Et qu'il y avait plusieurs formations politiques qui se sont retrouvées au sein d'une plateforme. Et que, avant toute chose, c'était pour bâtir un projet à proposer aux électeurs et aux électrices. Et que ce projet, je suis maintenant chargé de le mettre en œuvre, comme vous en doutez. Donc évidemment, oui, il y a des choses qui ne vont pas forcément changer. On sera dans la continuité de ce qui s'est fait précédemment. Mais nous avons nos options aussi, nos orientations. Et nous allons tenter de les mettre en œuvre. On a été élus pour ça.
Alors, il y a une forte demande sociale dans les Côtes d'Armor. Ça tombe bien puisque finalement le département a compétence au niveau social. Alors on parle beaucoup aujourd'hui des mineurs isolés. J'avais envie de commencer par cette question des mineurs isolés parce que c'est une préoccupation finalement. Et le département est partie prenante.
Oui, évidemment, puisque le département accueille autour de 300 migrants non accompagnés, donc 273 sur les derniers chiffres au 31 août. Et parmi eux, nous en avons une partie qui sont des mineurs et d'autres qui sont des majeurs. Mm-hmm. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas accompagnés. Mm-hmm. Voilà, il faut faire la nuance entre les deux. Donc on a en gros 120 mineurs et donc 150 majeurs. Et donc sur les mineurs, on assiste à une petite augmentation ces derniers temps, vu de ce qui se passe dans des contrées comme l'Afghanistan, par exemple. Et donc arrivent dans les Côtes d'Armor des migrants qui proviennent de, je dirais, du dispatching au niveau de la France, dans le cadre d'accords internationaux. Et donc là, on a accueilli 5 migrants qui viennent de Grèce, des Afghans, récemment, et on va encore en accueillir 6. Moi, j'ai tendance à dire, parce qu'on fait des fixations sur les migrants assez facilement, j'ai tendance à dire quand même que quand on a un département de 600 000 habitants, on peut accueillir 300 migrants non accompagnés. Je pense que ça fait partie de nos devoirs. Ensuite, quand on a les migrants, il ne faut pas caricaturer les choses non plus. Il y en a qui s'intègrent très bien. Il y a toujours, on met toujours en exergue la délinquance, mais il n'y a pas plus de délinquance, d'après les statistiques, sur les migrants que sur la population française. Donc je tiens à rétablir un peu les choses de ce côté-là. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a 120 mineurs, il y a 150 majeurs. Et donc les majeurs, on les accompagne également en termes de formation, en termes d'apprentissage. Et l'idée, c'est qu'ils puissent s'intégrer, trouver du travail. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, lors de la venue du Premier ministre au mois de juillet, d'aller à la Maison de l'Emploi et de constater que il y avait beaucoup d'employeurs qui cherchaient du personnel et qui formaient le personnel et que parmi eux, il y avait des migrants qui s'intégraient tout à fait correctement.
Comment le département les accompagne d'une façon, j'allais dire, pratique?
Nous avons une mission au niveau du conseil départemental qui a été mis en place en 2018, si ma mémoire est bonne. Et cette mission a justement pour objectif d'accueillir de travailler avec la préfecture, hein, parce que c'est un acteur important, évidemment. Hein, et donc, on travaille très bien, nous, dans le département des Côtes d'Armor, avec la préfecture, faire en sorte donc, que les jeunes qui arrivent ne soient pas laissés seuls, hein, mais qu'ils soient accompagnés. Et donc, c'est ce qui s'organise. Et le but est que il soit le moins possible livré à eux-mêmes.
Voilà, de façon à être, à pouvoir rentrer dans un dispositif, un cercle vertueux, comme on dit.
Oui, tout à fait.
Alors, toujours au niveau du social, Christian Coy, il y a aussi cette précarité. On l'a vu, hein, il y a eu des crises sociales. On pense aux gilets jaunes. On a eu de la pandémie qui n'a pas arrangé les choses. Aujourd'hui, l'augmentation du carburant, bientôt de l'énergie, du gaz, beaucoup de choses, hein, qui interviennent. Comment le département aide aussi les plus précaires ? Je vous en prie.
Alors le département a pour première compétence, hein, l'action sociale, évidemment, et s'efforce d'être au rendez-vous, hein, des demandes qui lui sont faites. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore des sujets qui sont sur la table, comme l'augmentation du prix de l'énergie qui va poser des difficultés dans de nombreux foyers. Pardon.
Je vous en prie.
Le Premier ministre allait intervenir sur ce sujet-là ce soir. Mais au niveau du département, nous avons cinq maisons du département qui sont des lieux de proximité quand même pour les usagers et qui nous permettent de les accompagner. Alors, on a des dispositifs, hein, comme le fonds social logement qui concerne toutes les dépenses d'énergie qui sont là pour ça. Mais il y a des problématiques, puisque vous le savez, qui vont se poser à nous également. C'est la réforme de l'assurance chômage qui va rentrer en application dans 2 jours.
On en parlait ce matin dans la revue de presse, entre autres.
Voilà, le 1er octobre, hein, et qui va faire que un certain nombre de personnes vont se retrouver dans la précarité, car moins soutenues, hein, puisque ce sont tous les contrats à durée déterminée, d'une manière générale. Ce que l'on craint, nous, c'est que ces nouvelles dispositions-là entraînent vers le RSA un certain nombre de personnes et donc pour le département, de nouveaux allocataires qu'on va devoir prendre en charge.
Oui, parce que rappelons, hein, pour les auditeurs que c'est le département, hein, qui verse le RSA.
Oui, c'est le département qui verse le RSA, en effet.
Alors, justement, cette précarité, là aussi, est-ce que le département a des dispositifs, outre le RSA, les aides pécuniaires à l'agir, est-ce qu'il y a aussi d'autres dispositifs en lien, par exemple, avec Pôle emploi, en lien aussi avec les réseaux d'entreprises, parfois ?
Oui, alors, le département essaye de faire en sorte, hein, que les chômeurs de longue durée soient accompagnés. Donc il y a un travail qui est fait avec la Maison de l'Emploi pour essayer de faire en sorte d'identifier ces personnes et de les accompagner, soit par des formations, soit par l'apprentissage, hein, parce que aujourd'hui les employeurs se rendent bien compte qu'ils auront du mal à trouver sur le marché des salariés formés. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui proposent, même à des personnes qui ne sont pas compétentes, de les former directement.
Alors, la formation et l'accompagnement, on pourrait le résumer ainsi. On parle aussi de dialogue social aujourd'hui. Alors, ce n'est pas toujours simple, le dialogue social, même au sein du département, j'allais dire, de l'entité département, du conseil départemental. On a beaucoup entendu les pompiers récemment. Ils sont même venus au micro de Bretagne 5 porter leurs revendications. Est-ce que le dialogue s'est renoué ?
Alors, en tout cas, on donne des signes en ce sens-là. Et ma première démarche, une fois élu président au 1er juillet, ça a été d'aller à la rencontre de personnel. Et je vais continuer ce que j'ai fait. Je vais continuer à le faire, puisque je suis allé dans une maison départementale du département à Saint-Brieuc, en direction des travailleurs sociaux, leur dire toute leur importance. Et le dialogue apaisé que l'on voulait construire avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, hein, qu'on soit très clair, chacun est dans son rôle. Je suis allé également voir les agents des routes, hein, qui étaient mécontents également d'un certain nombre de dispositifs et qui nous ont fait savoir qu'ils souhaiteraient avoir du matériel performant, avoir des bâtiments qui soient adaptés. Donc j'ai entendu cela. Évidemment, et je peux vous annoncer que la prochaine session qui va se tenir au mois de novembre verra une ligne budgétaire majorée sur le renouvellement du matériel. Donc ça, c'est des petits signaux que l'on envoie, mais mon premier vice-président qui est en charge des ressources humaines et du dialogue social travaille, Jean-Marie Beignet, donc travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que le dialogue social soit meilleur qu'il n'était. Je ne dis pas qu'il était absent, je dis qu'il était défaillant. Mmh. Donc, puisqu'il y a comme eu pas mal de mouvements de grève, il y a eu pas mal de mouvements de contestation, et on a eu même l'hémicycle occupé. Donc, ça veut dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Et Jean-Marie Beignet, donc le premier vice-président en charge de ces questions de ressources humaines et du dialogue social, a déjà donc commencé à travailler avec les syndicats. Et il y a des initiatives qui vont être prises dans les semaines qui viennent, justement, pour travailler sur un certain nombre de sujets, de manière à renouer le dialogue social. Voilà.
Il y avait une grande attente. Hein. La gauche revient, oui. On va pouvoir parler.
Oui, et ben c'est important, et pour moi j'y attache beaucoup de prix, et j'essaye de montrer l'exemple en tant que président du conseil départemental, et mes consignes vis-à-vis de l'exécutif sont très claires sur ce sujet-là. Je veux qu'on se parle, et je pense que c'est important que les salariés, on leur envoie quelques signaux pour leur montrer qu'ils sont importants dans le dispositif que l'on a. Et quand on a 3200 salariés, comme c'est le cas du département, évidemment, on doit s'attacher à faire en sorte que le dialogue social soit le plus fluide possible. Mmh. Je ne veux pas dire que ce sera parfait, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai commencé à visiter début septembre les services du département. Là aussi, pour moi, découvrir ce qu'est le département. Et je vais continuer. Hein. J'ai déjà visité deux directions et ça va se poursuivre dans les semaines qui viennent.
Alors, vous avez prononcé le mot de route. Alors ça parle aussi aux usagers, parce oui. que l'usager est mécontent. C'est très français, c'est très breton aussi. D'ailleurs, on oui. râle toujours les nids de poules, les routes, la signalisation. Je ne parlerai pas des radars ce matin. Oui. Mais les routes du département sont quand même, dans l'ensemble, plutôt en bonne forme, allais-je dire, comparativement à certaines régions. Et est-ce que, c'est un budget important, hein, vous allez pouvoir nous en dire un mot, Christian Couaille. Est-ce qu'il y a des améliorations, j'imagine que oui, à apporter. Et comment le département va prioriser ces améliorations de sécurité essentiellement ?
Là encore, c'est une réflexion globale qu'on veut avoir. On ne veut pas prendre de décision à l'emporte-pièce. On va mettre en place, dans les mois qui viennent, je pense, un schéma départemental véloroute. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens développent de nouvelles formes de mobilité, et nous, il faut qu'on les prenne en compte. Et donc, je visite actuellement aussi les intercommunalités, dont on en a vu à peu près la moitié, et je suis heureux de constater qu'au niveau des intercommunalités, ce sujet-là est pris en main également. Et notre souhait, en mettant en place ce schéma départemental véloroute, c'est d'associer les collectivités, justement, puisque vous savez qu'une route départementale en soi, c'est pas suffisant, donc il faut qu'il y ait des bouclages. Et les salariés aujourd'hui veulent de nouvelles formes de mobilité douce. Le vélo, c'est pas que pour aller se promener, le vélo, c'est aussi pour aller au travail. Et donc, j'ai eu l'occasion au mois de juillet, de venir ici sur Ifignac inaugurer un nouveau tronçon de mobilité douce. Et je vois bien que tous les élus travaillent pour créer des boucles sécurisées pour les cyclistes, par exemple. Et donc, dans le schéma départemental véloroute, nous allons mettre en place ce nouveau dispositif. Alors après, quand on parle des routes, il y a aussi le débat enduit-enrobé.
Ah, le fameux, voilà.
Le fameux débat enduit. Alors, je l'aborde avant que vous m'en parliez.
J'allais parce vous poser la question, forcément. Ah, est-ce qu'on peut en dire un mot, la différence pour les auditeurs, en quelques mots, sans rentrer dans la technique?
Oui,
forcément.
Alors, sans rentrer dans la technique, c'est deux techniques différentes qui sont utilisées. Hein, l'un à base de gravillon et de, je dirais, de goudron, et qui, dans le temps, a une durée moindre que l'autre, à base d'enrobé, mais qui présente aussi quelques inconvénients, parce qu'il n'y a pas de formule parfaite, évidemment. Mais les usagers préfèrent avoir de l'enrobé pour pouvoir éventuellement rouler plus vite que d'avoir de l'enduit, évidemment, qui freine un peu leurs ardeurs. Donc les deux techniques sont utilisés et continueront à être utilisés. Cependant, l'idée, c'est de mettre en place un groupe de travail qui définit bien quand on utilise la technique de l'enduit, quand on utilise la technique de l'enrobé, et que ce soit un dossier partagé entre tous les élus, déjà d'une part, et d'autre part, ben, l'idée aussi, c'est de faire en sorte de prendre en compte le centre technique départemental, parce que nous avons 13 salariés qui travaillent justement pour produire de l'enduit. Donc si on prend une orientation qui va vers plus d'enrobé, ça veut dire qu'il y aura des impacts derrière, et il faut qu'on anticipe ces questions-là pour pas qu'il y ait de difficultés pour les salariés.
Hein. Voilà, donc, comme quoi ça, un simple choix technique peut avoir même un impact social.
Voilà, voilà. Hein, donc on va pas mettre de l'enduit là où il y a des maisons d'habitation. Je prends un exemple comme ça, hein, évidemment. On va définir les modalités de ces deux techniques-là, et puis ce sera partagé entre les élus, et donc après, logiquement, en découle donc une stratégie.
Alors, attention au gravillon, hein, quand même, il y en a quelques-uns. Là, des fois, les cyclistes ne sont pas contents, d'ailleurs.
Oui.
voilà, ça sera peut-être aussi...
Les routes, c'est un sujet inépuisable. Hein. Vous savez, j'étais maire jusqu'au mois de juillet, et dès lors qu'on parlait des routes, les esprits s'enflammaient un peu.
Il y avait quelques crispations. voilà. Oui, je le dis, d'ailleurs, pour nos auditeurs, vous étiez maire de Saint-Servais. Hein, oui. Voilà. Vous êtes resté adjoint depuis.
C'est ça.
Voilà.
Depuis le mois de juillet, je ne suis plus maire, donc je suis resté au conseil municipal parce que je ne trouvais pas correct de quitter le conseil municipal alors que les électeurs, quelques semaines avant, m'avaient donné 79% des voix. Et voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis resté, mais je suis attaché à ma commune de toute façon, ils le savent bien. Donc, je pense aussi que c'était important pour moi d'épauler la nouvelle maire qui prenait ses fonctions.
Voilà, c'était une petite parenthèse hein, pour resituer. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'attentes sur l'environnement. On en parle beaucoup à cette antenne. Hein. L'environnement, c'est le sujet avec le réchauffement climatique qui est en marche. On l'aura déjà compris. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Saint-Brieuc avec les éoliennes en mer. Oui. Hein. C'est un sujet, là aussi, de crispation, de colère même, auquel vient s'ajouter la colère des pêcheurs, puisqu'ils sont directement impactés. Comment le département, alors, il n'a pas la gestion, hein, je le précise pour les auditeurs de ce dossier, mais comment gérer les attentes, comment entendre la détresse aussi?
Oui. Alors, sur des projets de cette nature-là, évidemment, il y a, des points de vue divergents, c'est très clair. J'ai reçu les parties en présence, hein, qu'il s'agisse du comité des pêcheurs ou d'Elmarine, qui est opérateur à travers Iberdrola. Ils sont complètement en désaccord. Maintenant, il s'agit d'une décision de l'État. Et donc, il y a à prendre en compte les aspects environnementaux, bien sûr. Il y a des études scientifiques qui sont menées sur ce sujet-là. Donc, nous, au niveau du Conseil départemental, on n'a pas de décision sur le sujet. Vous l'avez dit il y a quelques instants. Cependant, moi, j'ai tendance à dire que le projet est engagé aujourd'hui et, de mon point de vue, il se fera. Avec retard, peut-être, je ne sais pas. Bon, je lis, j'écoute ce qui se fait. En tout cas, pour ce qui concerne le département, il y a un dossier qui touche à l'éolien en mer et qui, sur lequel on va devoir se positionner, c'est celui du port de maintenance. Et donc, le port de maintenance tel qu'il est prévu dans le projet devrait se situer à Saint-Quay. Et donc, si ce port de maintenance se fait, c'est 80 à 90 emplois pour 35 ans qui sont annoncés par le porteur de projet. Bon. Donc, le département est majoritaire au niveau du syndicat mixte du port de Saint-Quay. Et à un moment ou à un autre, on va donc devoir dire oui ou non à ce port de maintenance. Et de mon point de vue... la meilleure manière d'aborder cette question, c'est quand même de travailler avec le maire de Saint-Quay. Nous avons prévu de nous rencontrer prochainement pour discuter de ce port de maintenance et voir quelle position pourrait être prise par rapport aux propositions qui sont faites. Et là, effectivement, on aura un pouvoir de décision.
Alors, autre sujet épineux, aujourd'hui, on parle beaucoup du financement des collectivités locales. Alors, oui. La région, les départements, l'État a tendance à beaucoup déléguer, pas forcément mettre les moyens en face. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez que l'État ne mette pas plus de moyens dans une forme de décentralisation pour les départements, pour les régions ?
Alors, moi, déjà, si vous voulez, avant d'en arriver à ça, je pense qu'il va bien falloir qu'on ouvre un dossier. C'est celui des ressources des départements, parce qu'on a des compétences, et des compétences sociales qui sont très coûteuses. Et en face, on a des ressources qui sont basées sur les ressources économiques, c'est-à-dire qu'elles sont sujettes à variation. Mmh. Et jusqu'à cette année, on avait un pouvoir de taux sur le foncier bâti. Maintenant, c'est plus le cas, puisque ça a été transféré aux communes. Et à la place, on a de la TVA. Donc la TVA, c'est très bien quand tout va bien, hein, quand l'activité économique est au rendez-vous. Mais s'il y a un retournement de conjoncture, on va se retrouver dans une situation où on va devoir assumer des compétences avec des moyens financiers qui vont être en baisse significative. Et donc moi, je plaide pour qu'il y ait des discussions qui sont engagées avec l'État, avec le gouvernement, avec l'ADV, l'Association des départements de France, et donc les départements, pour trouver un consensus sur un minimum de ressources garanties pour les départements. Et en fonction de ça, déjà, une fois que ça sera fait, on pourra exercer nos compétences dans de bonnes conditions.
Voilà. Mais le travail va être long et il va falloir convaincre.
Le travail va être long, pas forcément, si tout le monde se met autour de la table et tout le monde est animé des mêmes intentions. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer autrement? Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? On ne pourra pas laisser les personnes attributaires de décision sans avoir les versements auxquels ils peuvent prétendre. Donc si les départements sont pas en mesure de les verser, il faudra bien que l'État vienne combler. Donc autant qu'on se mette d'accord sur une stratégie, ça me semble être plus responsable. Et en tout cas, ça me semble être une stratégie de moyen terme qui sera plus payante pour tout le monde.
Alors, il y a aussi la question qui fâche. Est-ce que le département doit perdurer? On entend des voix, souvent d'ailleurs près des échéances électorales, pour dire « oui, oui, le département, c'est obsolète. Voilà, il faut une région sans département, peut-être avec des pays, etc. » Quelle est votre vision, vous, Christian Couaille?
Les pays, déjà, je vois que c'est en train de disparaître, puisque vous évoquez ce sujet-là, et que la région traite directement avec les intercommunalités. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que cette relation directe. Ensuite, sur le département, on peut tout imaginer, moi je suis fermé à rien. Ce que je constate, et je suis élu depuis un petit bout de temps quand même, c'est que personne n'a cours pour prendre les compétences sociales. Parce qu'on sait ce que c'est, hein, c'est très chronophage et c'est très consommateur également de deniers publics. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, si on modifie les choses, c'est de savoir comment on se situe par rapport à l'usager, au plus près de l'usager. Parce que quelqu'un qui a besoin d'être aidé, hein, il ne veut pas avoir à faire 30 ou 60 kilomètres parce qu'on aura fait une réforme institutionnelle. Donc pour moi, la meilleure façon de faire, c'est déjà de réfléchir à un mouvement de décentralisation, de déconcentration des services. Et à ce moment-là, on peut mettre en place, en effet, une nouvelle organisation, pourquoi pas. On me dit pourquoi les compétences sociales ne pourraient pas être exercées par les intercos. Mais si elle est exercée, on a 8 intercos dans le département, et si elle est exercée de 8 manières différentes, croyez-vous qu'on aura gagné au bout du compte? Donc ça, c'est une question qui est très importante. Moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on a diminué le nombre de régions, mmh, hein, de manière significative. Et aujourd'hui, dans certaines régions, les gens sont un peu perdus. Quand on parle des Hauts-de-France, hein, les Picards, ils nous disent « moi, je suis Picard, je ne suis pas des Hauts-de-France ». Quand on est en Bretagne, on sait, là, c'est très bien organisé, on sait où on est. Mais ce que j'observe, c'est que quand le nombre de départements de régions a baissé, on nous avait annoncé 200 millions d'euros d'économies. Aujourd'hui, les économies ne sont pas là. Et je pense que les gens s'y perdent un peu, donc au niveau des territoires.
Puis on imagine de grandes régions, on pense à l'ancienne région Aquitaine qui est devenue immense. Il faut être présent sur le territoire, le service public, le département doit être présent sur le ou les territoires en l'occurrence.
C'est ça, c'est ce qui est important. Pour moi, c'est un service public de proximité qui doit primer. Et donc, qu'il y ait des modifications d'organisation, parce que on a eu à l'occasion de la campagne électorale là, de débattre de la Bretagne à 5 ou de la Bretagne 5 départements qui intègrent aussi la région. Tout ça, c'est possible hein, comme élément de discussion, mais moi je suis très attaché à ce qu'on soit au plus près des usagers.
Alors il nous reste 2 minutes, Christian Couaille, ça va très vite le matin, 2 minutes pour parler de politique, alors un petit peu au-delà du département, les élections présidentielles et législatives se profilent à l'horizon, on sent que ça se tend, on sent que dans un climat, allez on va dire assez délétère, assez compliqué, on voit poindre aussi des envies de changement, et puis changements qui vont quand même plutôt vers l'extrême droite, est-ce que l'homme de gauche que vous êtes s'inquiète de cette situation ?
Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, le citoyen n'a pas encore la tête aux élections présidentielles. Mm-hmm. Ce que j'observe, c'est qu'il y a des candidats qui sont fabriqués de toutes pièces par les médias. On parle de Zemmour, par exemple.
Vous n'avez pas prononcé le nom.
Non, mais moi, je le prononce. Donc, il n'y a pas de difficulté. Hein. Donc, cette candidature-là est portée par les médias aujourd'hui, mais n'a aucun enracinement local. Donc, je pense qu'il faut raison garder et attendre de voir ce qui va se passer au niveau des formations politiques. En ce qui concerne notre formation politique, les choses sont claires. Et ce que je regrette, très clairement, c'est l'émiettement. Des forces à gauche, des forces politiques à gauche, parce que ça n'apporte rien de bon et je crois qu'on n'a pas encore tout compris.
Alors, il y a quand même eu une grande avancée ici dans les Côtes d'Armor qui vous a permis de gagner finalement. C'est le regroupement des forces de gauche. Il y a eu dialogue. Alors, ça n'a pas été facile, on l'aura bien compris. Hein. Mais voilà, il y a eu ce dialogue qui a conduit à une gauche unie, à l'exception de la France insoumise et de l'UDB. Est-ce que vous plaisez à rêver, Christian Couaille, que ça se fasse aussi au niveau national ?
De toute façon, si ça ne se fait pas, on est encore parti pour faire un mandat dans l'opposition. Et en ce qui me concerne, au niveau du département, j'avais toujours dit qu'il fallait partir avec une gauche la plus unie possible si on voulait gagner. C'est ce qu'on a fait. Et je pense que ce qui s'est passé dans les Côtes d'Armor devrait servir d'exemple au niveau national, mais j'ai quelques craintes.
Vous avez quelques craintes quand même. Vous avez dit, on va terminer là-dessus, ma philosophie d'action durant ce mandat sera basée sur un triptyque simple, volonté, transparence et sérénité. C'était en préambule, en ouverture de séance, ça va être votre ligne de conduite.
C'est ma ligne de conduite et j'essaierai de ne pas me départir de ce triptyque.
Eh bien, je vous remercie, Christian Couaille, d'avoir été avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes président du conseil départemental des Côtes d'Armor et adjoint désormais à la mairie de Saint-Servais. Voilà votre vie, votre commune, chère à votre cœur. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin. Belle journée.
Merci.
Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.